Bonsoir à tous. Belle fête de Saint-Jean de la Croix. Merci à frère Didier Marie d'avoir présidé la messe et d'être là ce soir et donc mardi et mercredi pour ces 3 jours de retraite avec Jésus, être aux affaires du Père. C'est bien tout ce qu'a vécu Jean de la Croix. Donc merci frère Didier Marie de nous conduire avec ce grand saint sur ce chemin. Et puis bonne retraite à vous et belle suite d'avant.
Jésus-Christ, notre frère, notre héritage. Le disciple bien-aimé, Jean, dit dans son évangile au chapitre 3, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Je vous propose ce soir, pour ouvrir cette retraite, de contempler le don qui nous est fait. Jean de la Croix a écrit à ce sujet ce que je crois être les plus belles pages de la spiritualité chrétienne. Il s'agit du chapitre 22e du deuxième livre de la montée du Mont Carmel. C'est un texte fondamental, mais vu l'espace de temps qui m'est imparti, nous ne prendrons que les paragraphes 5 et 6 qui vous ont été donnés sur la petite feuille. Dans le chapitre 21, Jean de la Croix évoque le désir de savoir des choses par grâce spéciale. Vision, parole, révélation. Et il indique que ce n'est pas à faire, car Dieu nous a donné d'une part la raison naturelle, d'autre part, la doctrine évangélique pour nous faire connaître ses volontés. Nous pouvons réentendre ici le début de la lettre aux Hébreux. Hébreux 1, les versets 2 et 3. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. L'auteur de la lettre aux Hébreux évoque la révélation faite par le passé, par l'intermédiaire des prophètes. Mais cette révélation devient plénière dans le Christ, par qui toute chose a été créée et est recréé par le mystère pascal évoqué par la rémission des péchés obtenue par le sacrifice de la croix. Jean de la Croix nous invite alors à contempler le Verbe, le Fils, le Christ Jésus. Au début du chapitre 22e, il commence par s'interroger sur le fait que dans la loi ancienne, dans la première alliance, il était permis d'interroger Dieu. Alors que dans la loi de la grâce, cela n'est plus autorisé. Il fait une citation de la lettre aux Hébreux que je viens de citer. Notons au passage que selon l'exégèse de son temps, il attribue cette lettre à saint Paul. Puis il tire les conséquences de ce passage de l'Écriture. Avec une grande audace que seule l'intimité autorise, il fait parler directement Dieu le Père. C'est le texte que vous avez, vous pouvez suivre sur vos feuilles. En conséquence, celui qui voudrait maintenant questionner Dieu ou demander quelques visions ou révélations ferait non seulement une sottise, mais encore injure à Dieu en ne regardant pas uniquement le Christ, sans vouloir ni autre chose, ni quelque nouveauté que ce soit. Et Dieu pourrait lui répondre, « Puisque je t'ai déjà dit toutes choses en ma parole qui est mon Fils, et que je n'en ai pas d'autre, que puis-je maintenant te répondre ou te révéler qui soit plus que cela ?» Ne regarde que lui, parce qu'en lui, je t'ai tout dit et tout révélé. Et tu trouveras en lui encore plus que tout ce que tu demandes et désires. En effet, tu demandes des paroles et des révélations partielles. Mais si tu le regardes bien, tu trouveras tout en lui, parce qu'il est toute ma parole et ma réponse, toute ma vision et toute ma révélation. Tout ce que je vous ai déjà dit, répondu, manifesté et révélé, en vous le donnant pour frère, pour compagnon, pour maître, pour prix et pour récompense. Depuis le jour où je suis descendu sur lui avec mon esprit sur le mont Tabor, en disant « Hic est filius meus dilectus, in quo mi bene complacuit in sum audite », à savoir « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis réjoui, écoutez-le. » J'ai abandonné toutes ces formes d'enseignement et de réponse, et je les lui ai remises. Écoutez-le bien, lui, parce que je n'ai plus d'autre foi à révéler, ni d'autre chose à manifester. Si je parlais autrefois, c'était en promettant le Christ. Et si l'on m'interrogeait, les questions concernaient la demande et l'attente du Christ, en qui on devait trouver tout bien. Ce que fait comprendre maintenant toute la doctrine des évangélistes et des apôtres. Mais à présent, celui qui me questionnerait de la même manière qu'autrefois et qui voudrait que je lui parle ou lui révèle quelque chose, me demanderait en quelque sorte une nouvelle fois le Christ, me demanderait plus de foi, comme s'il en manquait à celle qui est déjà donnée dans le Christ. Il ferait grande injure à mon Fils bien-aimé, car non seulement il manquerait de foi en lui, mais encore, il l'obligerait à s'incarner de nouveau et à passer de nouveau par sa vie et sa mort. Tu ne trouverais rien à demander, ni rien à désirer de ma part en fait de révélation ou de vision. Toi, regarde-le bien, car tu trouveras en lui tout cela déjà accompli et donné, et même beaucoup plus. Si tu veux que je t'adresse quelques paroles de consolation, regarde mon Fils. Il m'est soumis, il est attristé, et tout cela par amour pour moi. Tu verras tout ce qu'il te dira en retour. Si tu veux que je t'explique l'une ou l'autre chose cachée, regarde-le seulement, et tu trouveras en lui les mystères les plus cachés. La sagesse et les merveilles de Dieu qui sont renfermées en lui, comme le dit mon apôtre, in quo sunt omnes tauseri sapientiae et scientia dei absconditi, c'est-à-dire dans le Fils de Dieu sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Ces trésors de sagesse seront pour toi beaucoup plus élevés, savoureux et profitables que les choses que tu voudrais savoir. C'est pourquoi le même apôtre se glorifiait en disant qu'il ne lui avait pas été donné de comprendre autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et si tu veux aussi d'autres visions et d'autres révélations, soit naturelles, soit matérielles, regarde-le lui dans son humanité. Tu y trouveras beaucoup plus que tu ne penses. C'est pour cela que l'apôtre dit encore « In ipso habitat omnis plenitudo, divinitatis corporaliter », ce qui veut dire « Dans le Christ demeure corporellement toute la plénitude de la divinité ». Vous pouvez noter, vous reprendrez tranquillement ce texte à la maison, c'est un texte d'une densité telle que je n'ai pas la prétention en quelques minutes de vous faire une explication de texte. C'est un texte qu'il faudra relire, c'est pour ça qu'on vous l'a photocopié. N'hésitez pas à le lire et à le relire. Nous pouvons noter tout le vocabulaire qui insiste sur le regard à poser sur le Christ. À 6 reprises, Jean de la Croix écrit « Ne regarde que lui ». Si tu le regardes bien, regarde-le bien, regarde mon fils, regarde-le seulement, tu verras. C'est une invitation pour nous à la contemplation, à poser notre regard sur le Christ, pas simplement à voir, mais à regarder véritablement, c'est-à-dire à laisser notre regard plonger dans le mystère, découvrir tout ce que le Père a renfermé en lui. Le registre de la totalité est très présent dans ce texte. En son Fils, le Père a tout dit, tout révélé, tout répondu. À 2 reprises, il précise que nous trouverons en lui tout. Et comme si ce tout ne suffisait pas, il ajoute « et même beaucoup plus ». Le Fils est le seul qui peut combler nos désirs, nos demandes. Lui, le Verbe incarné, il est la parole du Père. Jean de la Croix met dans la bouche du Père cette phrase extraordinaire. En vous le donnant pour frère, pour compagnon et pour maître, pour prix et pour récompense. Je voudrais avec vous ce soir reprendre ces 5 termes qui sont fondamentaux. Le premier, c'est frère. Le Verbe de Dieu, le Fils du Père, en s'incarnant dans le sein de la Vierge Marie, devient notre frère en humanité. L'auteur de la lettre aux Hébreux que je citais tout à l'heure écrit au chapitre 2, verset 11 « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, donc celui qui sanctifie le Christ, hein, ceux qui sont sanctifiés, c'est nous, doivent avoir même origine. C'est pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Souvenons-nous que dans les évangiles, Jésus appelle ses disciples amis. En Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et dans son parcours d'humanité, Jésus n'emploiera que le mot ami pour parler à ses disciples. Le mot frère, c'est le ressuscité seul qui le prononcera. Il dit à Marie-Madeleine, au chapitre 20, verset 17 de Saint Jean, « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il est notre frère et c'est le ressuscité qui nous donne ce titre-là. Il est notre frère, mais en même temps, il maintient la différence. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Il n'a pas dit, je monte vers notre Père. Pour bien montrer que sa manière d'être fils et notre manière d'être fils n'est pas tout à fait la même. Lui, il est le Fils unique par essence et il nous donne par grâce, par la grâce de son mystère pascal, de pouvoir devenir des fils adoptifs. Mais, comme le dit magnifiquement l'auteur de la lettre aux Hébreux, il ne rougit pas d'être appelé notre frère. Après le terme frère, je voudrais m'arrêter sur le terme compagnon. Thérèse d'Avila aime à dire du Christ Jésus qu'il nous tient compagnie, qu'il est notre compagnon de route. Il a rejoint les disciples d'Emmaüs, il a cheminé avec eux, les écoutant, les enseignant, jusqu'à ce qu'ils le reconnaissent à la fraction du pain. Aujourd'hui encore, Jésus vient nous rejoindre sur nos chemins. Il nous écoute quand nous prions. Il nous enseigne par sa parole. Il se fait reconnaître dans l'Eucharistie. L'ayant reconnu à la fraction du pain, nos yeux deviennent plus perçants pour découvrir sa présence cachée au cœur de nos vies, au cœur de notre monde. Maître, à plusieurs reprises dans l'Évangile selon saint Luc, il nous est dit que la parole de Jésus est une parole d'autorité. Très souvent, nous le voyons enseigner. Nous pouvons peut-être nous interroger ce soir, quelle autorité je donne aux paroles de Jésus? Parce qu'en fait, l'autorité, ce n'est pas quelqu'un en face de nous qui la détient, c'est nous qui donnons à la personne autorité sur nous. Quelle autorité est-ce que je donne à Jésus dans ma vie? Quelle autorité je donne à ses paroles? Est-il véritablement pour moi le maître auprès duquel je viens chercher un enseignement? une disciple de Jean de la Croix, Sainte Élisabeth de la Trinité, écrivait dans sa célèbre prière à la Trinité « Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. » Pourrions-nous faire nôtre ces paroles et cette prière d'Élisabeth de la Trinité? Je vous l'ai donné pour prix. Dans le livre de l'Apocalypse, les quatre vivants et les 24 anciens chantent un cantique nouveau dans lequel ils proclament « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des gens de toute tribu, langue, peuple et nation. » Apocalypse 5, verset 9. Les évangiles évoquent le prix du sang à propos des 30 deniers reçus par Judas pour livrer le Fils de l'homme. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, nous rappelle que par la mort du Christ en croix, le Père nous a rachetés. Il écrit, Colossiens 2, 13, 14, « Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Oui, c'est au prix de son sang que le Christ nous a rachetés pour que nous devenions en lui des enfants bien-aimés du Père. Récompense. Le Christ Jésus est notre récompense, car en lui nous avons accès au Père. En lui, nous recevons la vie éternelle. Il est notre héritage. Faisons à nouveau appel à la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 15. Il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Le mot « récompense » est traduit par d'autres par « héritage », donc il y a similitude entre les deux. Voici trois titres. Frère, compagnon, maître, prix. Récompense ou héritage. Prenons le temps de reprendre dans notre cœur chacun de ces adjectifs. Demandons-nous, comme ça spontanément, quel est celui qui nous parle le plus? Quel est celui qui m'aide davantage dans ma relation au Christ Jésus? Nous pouvons aussi nous demander quel est celui qui ne nous dit pas grand-chose. Il sera sans doute intéressant par la suite de se demander pourquoi il y en a un des cinq qui ne nous dit pas grand-chose et peut-être de transformer alors notre manière de voir et de comprendre les choses. Dans ce passage, Jean de la Croix parle de la foi. Parfois, il désigne ainsi la vertu théologale de foi. Dans d'autres occasions, il parle du contenu de la foi, donc de la révélation. C'est important de distinguer, car cela peut nous éviter de grandes confusions sur les propos de saint Jean de la Croix. La foi, c'est une vertu théologale, bien sûr, mais c'est aussi le donné révélé. Dieu qui se dit à l'homme, mais qui en même temps demeure caché, parce qu'il se propose à nous dans une vérité que les expressions de la foi peuvent signifier, mais ces réalités existent en Dieu sous un mode et dans une dimension qui nous échappe totalement. Elles nous disent, oui, des vérités sur Dieu, mais Dieu ne peut être réduit à aucune vérité particulière. Dieu est la vérité. Il n'y a pas en nous une notion adéquate à la vérité qui est Dieu. C'est pourquoi quand nous saisissons, pour autant que ce soit possible, ces précieuses expressions qui donnent la foi, nous voyons bien dans quelle direction elles se rejoignent à l'infini en un point qui les condense toutes, mais ce point nous échappe. C'est pourquoi Jean de la Croix parle de l'obscurité de la foi. La foi donne Dieu avec certitude, mais en même temps dans l'obscurité, non pas par absence de lumière, mais plutôt par excès de lumière. C'est comme un éblouissement de notre intelligence par une lumière qui la dépasse. La foi, d'une certaine manière, c'est la parole de Dieu. C'est le Christ Jésus lui-même. C'est Dieu qui se dit à nous en son Fils. Notons l'importance des deux mots qui sont employés à la fin du paragraphe 6, c'est-à-dire tout en bas de votre page. Dans son humanité, c'est trois lignes avant la fin, hein, regarde-le, lui, dans son humanité, il demeure corporellement. Ces deux termes nous éclairent précisément sur le sens que Jean de la Croix donne à la foi. La vérité de Dieu est tout entière dans le Verbe divin, mais est proposée dans la mesure où ce Verbe divin s'incarne, c'est-à-dire dans la mesure où la nature divine nous apparaît dans une nature humaine. C'est la vérité de Dieu dite aux hommes, c'est la vérité de Dieu pour l'homme. La vérité de Dieu, sa parole, nous est accessible dans la mesure où elle se revêt d'un langage humain. Vérité de Dieu proposée en parole d'homme, c'est là que Dieu nous est donné. C'est là seulement qu'il nous est rendu accessible. Rendu accessible à l'homme, mais en même temps invisible. Voilà le domaine de la foi, et c'est dans l'humanité de Jésus-Christ que cela se réalise parfaitement. On pourrait dire que le Verbe incarné, Jésus-homme, est vraiment le lieu par excellence de la révélation. C'est là que Dieu nous est proposé, qu'il nous est donné pour être rencontré. Jean de la Croix nous disait au début de son texte, vous vous en souvenez, que nous ferions injure au Père. C'est la deuxième ligne tout au début. Celui qui demanderait à Dieu quelques visions ferait injure à Dieu. Il dit que nous ferions injure au Père en ne regardant pas uniquement le Fils. Mais il fait dire au Père, à la fin du texte, que nous ferions injure au Fils si nous demandions une foi autre. C'est au paragraphe 5, c'est quatre lignes avant la fin. Il ferait grande injure à mon Fils. Tout est accompli du côté du Christ. Il nous faut maintenant le recevoir. Quelle place, frères et sœurs, tient le Christ Jésus dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine, car la vie spirituelle n'est pas en dehors de notre vie familiale, professionnelle, associative, etc. Le spirituel fait partie de tout notre être. Quelle place y tient le Christ Jésus ? Pourrions-nous nous exprimer, nous exclamer, comme ces disciples de Jean de la Croix qui étaient Thérèse Bénédicte de la Croix et Liechtenstein, qui écrit à l'un de ses amis « Le Christ est le centre de ma vie ». Quelle est notre relation à la sainte humanité du Christ ? Savons-nous aller à lui pour lui porter nos désirs, nos demandes ? Sommes-nous persuadés qu'en lui, le Père nous a tout donné et qu'il peut ainsi nous combler au-delà de notre attente. Comment concrètement posons-nous notre regard sur le Christ Jésus ? Savons-nous regarder une icône, un tableau, un crucifix, pour entrer en relation vivante avec le Fils bien-aimé du Père. Combien de fois au cours de notre journée posons-nous vraiment un regard sur le Christ ? Pas simplement de manière imaginaire, mais de manière concrète. Allons-nous le rencontrer présent dans son corps eucharistique au tabernacle ? Parfois, nous errons l'âme en peine, nous mijotons dans notre jus, dans nos idées, nous sommes tournés sur nous-mêmes. Savons-nous, dans ces cas-là, nous quitter pour aller à la rencontre du Christ, pour poser sur lui notre regard et briser ainsi le cercle de l'enfermement sur nous-mêmes. Notre mère Sainte Thérèse, dans le livre de la Vida, raconte que après la fondation du monastère Saint-Joseph, elle a été assaillie de doutes, de questions. Elle ne savait plus comment s'en sortir et elle s'enfonçait jusqu'au moment où elle a eu le réflexe de se rendre vers Jésus au tabernacle. Et à ce moment-là, le ciel s'est dégagé et tout est devenu lumineux pour elle. Elle a été confirmée dans l'action qu'elle faisait en fondant San José. Avons-nous le réflexe de lire et de méditer l'Évangile pour contempler Jésus dans sa sainte humanité, sur les chemins qu'il a parcourus sur la terre? Le Père nous invite dans ce texte de Saint Jean de la Croix à une écoute attentive de son Fils bien-aimé. Comme il l'a proclamé sur le mont Tabor dans l'épisode de la Transfiguration en Matthieu 17, 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Savons-nous écouter et garder sa parole afin que s'accomplisse pour nous ce qu'il a annoncé en Saint Jean? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et chez lui, nous ferons une demeure. Pour clore cet entretien, je vous invite simplement, avant les complies, à un petit temps de silence, à fermer peut-être vos yeux pour poser votre regard intérieur sur le Christ et à laisser résonner en vous les trois titres que lui donne le Père. Je vous les donnais pour frère, pour compagnon et pour maître, pour récompense et pour prix. Amen.